Bonsoir à tous et bienvenue dans les éclaireurs numéro 5. Et ce soir, comme d'habitude, trois dossiers. Et donc avec moi ce soir, deux invités de prestige. J'ai Matt qui est avec moi.
Ouais, je crois.
Tu commences bien. Et alors, on le connaît pas trop, il débute dans le milieu du podcast, c'est Laurent. Voilà, c'est ça, c'est Laurent.
Et moi. Salut.
Qu'est-ce que tu fais encore là?
On m'invite, c'est tout, voilà. C'est le génie parien.
Alors, au programme ce soir, trois dossiers. Un premier dossier de mon cru sur... Alors, je m'excuse pour ce dossier, ça va être sur les gestes offensants. Attends, commence si tu veux, hein, tu sais.
Mon cru, j'ai même pas entendu la blague. Mon cru quoi? Mon cru sur la commode, c'est ça le truc?
Ouais, mais je pense qu'on peut passer. Hein.
Bon.
Ensuite, ça va être Laurent qui va nous parler de...
De Ghibli.
Très bien, intéressant. Alors, et Matt va nous parler d'un dossier super mystérieux. Je me suis pas spoilé le dossier, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement ton dossier?
Alors, c'est un dossier que j'ai intitulé à la recherche d'Anastasia. C'est Anastasia...
La chanteuse, la des gros seins?
Voilà, non, alors pas elle, mais la fille du tsar Nicolas II qui est morte normalement, selon la version officielle.
Très bien. Donc ce soir, je tiens à préciser que nous sommes fait exceptionnel, nous sommes en live.
Un
live.
Et ça marche.
On verra bien, hein. De toute façon, si ça coupe, tant pis pour vous. Voilà. Un live qui marche pour l'instant, bon, ça va sûrement planter un moment, mais bon. Et on a qui sur le chat? On a Randall Flag qui va nous faire un gribouillon, Titours Azertov, Barberousse, des guests, on a Dr. Aren, et on a, oui, encore Titours, mais ça doit être un doublon. Très bien, juste quelques remerciements avant de commencer. On va remercier The Trousseb, on va remercier Osef de la team Plan B, on va remercier Le Milou, et je ne sais pas s'il y a des commentaires sur iTunes parce que ça fait 6 mois que je n'y suis pas allé. Voilà, voilà.
Oh, non plus d'ailleurs.
J'aime Paris. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Attaquer avec le premier dossier. Et je lance le premier jingle et on se retrouve juste après. Magnifique jingle, n'est-ce pas?
Chopin ou Mozart? Non, Mozart plutôt, non?
Et est-ce que vous avez trouvé la référence?
Absolument pas.
Bah, c'est Mozart?
Absolument pas.
C'est pas ça, mais ça doit être...
Alors, pour vous expliquer, c'est Randall Flag qui m'a conseillé ce jingle, donc je remercie Randall Flag. Et donc, c'est un jingle de... C'est une émission de 79 qui s'appelle Les mains ont la parole. C'était une émission qui était destinée au public sourd et malentendant. Où à chaque fois il y avait quelqu'un qui racontait une histoire par des gestes, des signes de la main. Donc petite référence au sujet de ce soir.
Ah, on sent la référence de vieux pour Randall. Enfin, moi je dis ça.
Alors pour clarifier ce soir, je vais pas parler de, par exemple comme dans Live to Me, je sais pas si vous connaissez.
La série avec.
Donc, je vais pas parler de ce genre de gestes-là, les micro-expressions qui révèlent notre humeur. Ça. Je vais pas en parler. Je vais parler de ces gestes bien connus et de leur origine historique. Donc je vais parler par exemple de la poignée de main, du doigt d'honneur, entre autres. Alors je vais commencer par quelques gestes pas forcément très intéressants, mais bon, c'est histoire de se chauffer. Pendant que vous êtes dans un stade de foot et c'est la joie avec les supporters, qu'est-ce que vous faites?
Je sais pas, on agite les bras, on fait la hola. On fait
la hola,
j'applaudis.
Oui. On applaudit aussi, mais ça sera... Il y a surtout la hola. Bon, en fait, la hola, déjà, ça a été inventé. C'est pas si vieux, ça a été inventé en 1983. Inventé, si je puis dire, hein, vous savez. Mais le plus intéressant dans la hola, c'est que ça a été étudié très près par des scientifiques hongrois. Donc, je pense qu'ils sont payés pour faire ça.
Hongrois qu'on fait la hola, mais on finalement pas. Pardon.
C'est pas de jingle toutes les deux minutes, mais bon.
Pardon.
Et donc, pour qu'une hola marche, ils ont étudié ça très près, il faut un minimum d'une trentaine de personnes. Donc ils ont même étudié les vitesses d'exécution des holas, ils ont fait des moyennes, des largeurs de holas, enfin bref. Mais c'était pas le plus intéressant. Par exemple, ça vous arrive de croiser les doigts?
Oui.
Oui, j'imagine, oui.
En fait, croiser les doigts, c'est en gros espérer qu'une chose se réalise.
Oui.
On est d'accord. Et en fait, l'origine du geste se croiser les doigts, c'est religieux, à la base. Forcément, les doigts en croix. Ça signifiait implorer la protection de Dieu, c'était aussi un signe que les chrétiens utilisaient pour se reconnaître au temps de la persécution des chrétiens, au 1er siècle. Donc c'était quand même un geste secret. Au 16e siècle, on croisait les doigts lorsque quelqu'un toussait ou éternuait pour repousser le mal. Donc là, on a encore cette notion de conjuration de sorts. Au 18e siècle, c'était publiquement recommandé de croiser les doigts jusqu'à rencontrer un chien, si on en vient à passer sous une échelle. Voilà, encore une histoire de conjuration de sorts.
Attends, il y a le chien à l'échelle, là j'ai raté un truc. Fallait croiser les doigts jusqu'à croiser un chien, c'est ça?
Un chien, oui, pour éviter le mauvais œil. Si on était passé sous une échelle. Voilà.
Mais bon, ça t'étais pas emmerdé.
Ah non. Ça devient hyper compliqué, c'est le problème des
superstitions. Trouver le chenil le plus proche, quoi.
Mais c'est ça, quoi.
Mais pour l'instant, c'est les petits gestes pas forcément importants. Est-ce que vous connaissez le geste qui s'appelle le Dulia?
Le Dulia?
Dulya. Est-ce que la chatroom connaît le Dulia?
Non, ça me dit rien.
Et si je vous dis qu'en France, on connaît le geste sous le nom du « j'ai volé ton nez ».
Ah oui.
Ah oui, on fait ça aux enfants.
Une de mes blagues préférées.
Et alors, donc pour ceux qui ne veulent toujours pas, il s'agit de mettre son pouce entre son majeur et son index.
Ah, mais tu gâches tout, là.
Ah oui, j'ai volé.
Ils vont plus me croire.
Et donc, a priori, il n'y a rien d'enfonçant avec ce geste. Je pense qu'on est d'accord. Si vous allez en Turquie, je vous déconseille de faire la blague à un enfant. Et en Turquie, les pays alentours. Sinon, vous allez passer un très très mauvais quart d'heure. Parce que en Turquie, le Dulia, c'est... Ça vient d'un symbole phallique. Donc.
Ah ouais, ouais. Ouais, puis croiser les enfants, le symbole phallique, tout ça, bon.
Il faut faire très attention.
La Turquie peut-on compter de nos jours?
Et donc, avec un sens. En gros, le sens, c'est tu peux le mettre là où je pense. Voilà.
Pour la c'est beaucoup plus vulgaire que chez nous. Hein.
Ah oui.
Et c'est moins drôle.
Pour les amateurs de Star Trek, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur un geste fameux?
Bah, le salut Spock avec les doigts regroupés par paire, on va dire, enfin, genre le pouce, c'est ça, c'est une espèce de V avec les doigts groupés. Enfin, c'est difficile à décrire à l'oral comme ça.
Un V entre le majeur et l'auriculaire.
Absolument.
En fait, le fameux salut Vulcain qui était popularisé par Leonard Nimoy, donc alias Spock, et d'où vient-il selon vous?
Il y a le V de la victoire, mais...
J'en parlerai après, le V de la victoire.
D'accord.
En fait, quand Léonard Nimoy était gosse, il avait entreaperçu un rituel juif, c'était une sorte de bénédiction, où des personnes faisaient ce signe-là de la main. Et c'est un geste qui représentait une lettre en hébraïque qui signifie « tout-puissant », sous-entendu « Dieu tout-puissant ». Et ouais.
En tout cas, Anna Flint le fait très bien.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Nimoy qui a amené ce geste dans Star Trek. Et lui, il savait le faire, mais William Shatner, qui jouait Kirk à l'époque, galérait comme pas possible, et à chaque fois, on devait lui attacher les doigts avec du fil de pêche. Pareil pour Zachary Quinto, c'est le Spock actuel dans les films de J.J. Abrams, que tu adores, je sais, Laurent.
Oui, absolument.
On a dû lui coller les doigts avec de la glue parce qu'il n'arrivait pas. Et non. Ouais, bon, ça, c'était des petits gestes tout bêtes pour surfer. Maintenant, je vais passer à quelque chose d'un petit peu plus lourd. Est-ce que vous pouvez me parler Alors, à votre avis, d'où vient la poignée de main?
Je sais pas, parce que pour moi c'est très européen, parce que je crois que les Japonais ne serrent pas la main, par exemple.
Oui, après ça dépend aussi, c'est très occidental. Ouais. Mais il n'y a pas de date précise de l'apparition de la poignée de main, mais on estime, de par des sculptures, que c'est pratiquait déjà la poignée de main en Grèce 5 siècles avant Jésus-Christ, déjà.
D'accord.
Et donc à la base, c'était avant tout un signe de paix, d'apaisement. Donc, parce que le fait d'avoir la main ouverte et tendue vers la personne, c'était censé montrer qu'on ne portait pas d'armes et qu'on pouvait se faire confiance. Et à partir de là, il y a toutes les théories qui ont découlé de la poignée de main. En fait, certaines personnes avancent qu'à la base, la poignée de main, ce serait une évolution de la palpation du coude. Donc au début, on ne se serrait pas la main, on se palpait le coude.
Oui, ça, j'avais vu ça, ouais.
Ah ça, on a l'air très con aujourd'hui, je trouve, à se palper le coude. Hein.
J'articule, on se palpe le coude, hein. On n'allait pas penser à autre chose. Non, parce que je suis sûr que j'en vois déjà sur la chatroom s'exciter. Donc soit une palpation de coude, soit d'autres pensaient que c'était le mouvement de balancier qu'on fait au moment de la poignée de main qui devait déloger les armes. Maintenant, de nos jours, c'est un geste très pris au sérieux parce que certains décortiquent ce geste et estiment qu'il y a beaucoup à prendre d'une personne selon la façon dont elle sert une main. En fait. Par exemple, la firme Chevrolet avait commandité une étude qui était destinée à ses commerciaux pour leur permettre de vendre plus de voitures, comprendre bien comment bien serrer les mains pour pouvoir vendre plus de voitures. Et donc, des scientifiques se sont penchés sur la poignée de main et il en ressort qu'une poignée de main parfaite, c'est une combinaison de 12 paramètres différents. Donc, inclinaison de la main, pas de sueur, main gauche, enfin main droite, tout ça.
Si donc, c'est les mêmes scientifiques qui ont mesuré là-haut, là, il y en a vraiment qui s'amusent bien, hein, je pense.
Ah, je suis sûr que vous connaissez celui-là. Alors, un geste a priori banal maintenant. Vous êtes en famille ou entre amis, autour d'un verre, lors d'un moment important, et qu'est-ce qu'on en vient à faire?
Des gros doigts. Ah non, c'est pas ça, pardon.
Des gros doigts.
Non, non, autant pour moi.
On s'applaudit.
Non,
on se fait la bise, mais non. Ah oui, on trinque. Ah ça, ouais, je connais celui-là.
Vous connaissez ouais. En fait, le fait, à ton avis.
Je crois que je sais. Je crois que je sais.
Vas-y,
Mathieu. Ça venait pas d'une époque où il y avait beaucoup d'empoisonnement et ouais. Où le but c'était de croiser justement les verres pour qu'il y ait donc du liquide qui s'échange un peu entre les deux coupes et on garde la confiance dans ce qu'on boit, quoi.
C'est ce que j'allais dire.
Eh ben, je pense que vous avez très bien résumé. Mais j'ai quand même...
Vas-y.
Explicité. En fait, à la base, le fait de trinquer, ça vient, selon toute vraisemblance, de l'Antiquité. Déjà, à la base, où les Romains et les Grecs célébraient les dieux et les morts en trinquant. Et en échange d'un souhait. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit santé. C'est qu'on souhaite la santé en trinquant.
D'accord.
Et au Moyen-Âge, alors là, le fait de trinquer, ça change radicalement de signification. Les seigneurs et les autres notables importants n'hésitaient pas à empoisonner leurs concurrents ou d'autres personnes dérangeantes. Et donc, de ce fait, il y a une habitude qui s'était développée, c'est celle de verser un petit peu de liquide dans son verre, dans celui des autres, puis de boire une gorgée en se regardant dans les yeux.
Pour regarder la réaction, quoi. Pour
montrer qu'on était digne de confiance. Puis après, finalement, ils se contentaient juste de cogner leur verre rempli à ras bord, parce que ça suffisait pour échanger le liquide, cogner leur verre contre ceux des autres, pour échanger un petit peu de liquide. Et donc, le bruit qui résultait de ce fracas des verres, c'était le chin, d'où l'expression faire chin-chin.
Ouais.
Voilà.
Oui, parce qu'ils avaient des coupes sérieuses. Nous, aujourd'hui, tu fais ça avec des verres, tout explose dans les mains.
C'est des coupes où tu peux te trancher le crâne avec. Hein. En Allemagne, je sais pas si vous êtes allé en Allemagne.
Si, c'est Prost, c'est ça, je crois.
Alors, je pourrais pas te dire ça, mais...
Ils ont des verres bizarres.
Oui, ils ont des verres
C'est le Prosit, ou le... Voilà, c'est un peu ça, le...
En fait, ouais, c'est une pratique super sérieuse en Allemagne. Personne ne doit boire une gorgée d'alcool avant que tout le monde soit à table. Et on trinque en se regardant dans les yeux. Si personne le fait, ça t'attire le mauvais œil.
Faut pas croiser aussi.
Faut pas croiser les esprits.
C'est chiant quand t'as toujours un mec qui te fait ça quand t'es au bar ou t'es électriqué autour d'une petite table et tout. Et c'est sympa, t'es avec tes potes et tout. Et tu te mets à trinquer pour fêter le bon truc. Et t'en as toujours un qui te fait ah là, faut pas croiser, ah là là, faut se regarder et tout. Donc tu passes 10 minutes à essayer de te viser l'œil de l'autre, d'attendre que l'autre ait fini de passer pour passer par deux. Ouais, voilà. C'est un peu le sport.
Il y a aussi une superstition dans la marine américaine, ne jamais trinquer avec de l'eau. Sinon, la personne finira morte noyée. Tout simple.
Ça, c'est une bonne excuse pour picoler autre chose, ça.
Oh, oui. Ouais, je pense aussi, ouais.
Oui, on trinque jamais, on trinque toujours dans la marine, dans les dîners de marine, on trinque toujours au vin. Très important. Et on trinque à l'eau pour les personnes disparues.
Non, mais à l'eau, quoi. Film.
Oh
ah, misère.
Je l'ai pas volé, celui-là.
Allez, on va dans les gestes un petit peu plus offensants.
Ah.
On y arrive, là. Si je vous parle du mooning.
Du mooning ?
Et ouais, je vous laisse chercher.
Avec la lune ? Ah, c'est le fait de montrer son cul.
Il l'a trouvé. Et ouais, donc parmi ces gestes offensants, il y a le mooning. Qu'est-ce que le mooning ? Qu'est-ce que mooning ? C'est tout simplement le fait de montrer ses fesses. Et c'est souvent utilisé comme geste de protestation ou de provocation, ou un geste pour le fun. Si
je me demande si c'est pas un peu américain, parce que... Je sais que dans toutes les séries américaines, il y a toujours, notamment avec des jeunes, il y a toujours un épisode où ils se font attraper.
Ou tu regardes le petit journal maintenant.
Ah,
t'as
non.
T'as toujours des images de gens qui montent leurs fesses en sortie de concert.
Ouais, j'avoue que c'est pas une pratique. Bon.
Pourquoi mooning ? Eh ben, en fait, bon, c'est évident, c'est en rapport avec la lune, moon en anglais, et c'est une métaphore qui remonte en 1543 déjà. Et donc, hormis ça, il était très courant de montrer ses fesses aux ennemis au Moyen-Âge. Et donc, plus trop maintenant, heureusement. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, tout du moins au Maryland, vous pouvez montrer vos fesses librement, car c'est protégé par le premier amendement au titre de la liberté d'expression. Donc, vous pouvez vous pouvez aller aux États-Unis montrer vos fesses, a priori, il n'y aura pas de souci. Mais ils ont beaucoup de mal à statuer là-dessus, parce que si montrer ses fesses était répréhensible par la loi, ils auraient beaucoup de mal à interdire les bikinis sur les plages, par exemple, pour les filles.
Enfin, ils se cassent les pieds avec la loi, des fois, c'est...
Tiens, le premier cas reconnu de mooning date de quand, selon vous? Le tout premier cas, comment on peut retrouver?
Bah, ça doit être un tableau ou un truc dans le genre, peut-être.
En fait, ça date de 66, mais pas 1966, de l'an 66.
Ouf.
Ouais. En fait, pendant la guerre entre les Romains et les Juifs, il y a un soldat romain qui avait fait du mooning envers des pèlerins juifs qui passaient par là pour aller à leur temple, donc ils ne demandaient rien, hein, les pèlerins. Et ce soldat a montré ses fesses, et sans vouloir, il a déclenché une énorme émeute contre les soldats romains, et ça s'est soldé par la mort de plusieurs centaines de personnes, donc c'était un cas dramatique de mooning déjà à l'époque.
Oh mon dieu.
Il y a aussi en 1346, alors c'est très historique ce soir, vous allez voir, hein, je vais parler de plein de choses historiques. Pendant la bataille de Crécy, donc le roi Édouard III a déclaré à l'encontre des soldats normands, ennemis, qui, je cite, « ils ont montré leurs fesses aux archers anglais, mais beaucoup en ont payé le prix fort ».
Oui, parce que, quitte à montrer ses fesses, il ne faut pas les montrer à des archers qui ont des armes de jet, hein, c'est le principe.
Tu t'exposes un tout petit peu, quoi.
Hein, quand même, voilà.
Alors, Anna Flynn qui demande « c'est quoi le mooning ?» Oui, c'est quand on est tout nu des fesses, je crois.
Absolument, c'est... voilà.
D'ailleurs, les femmes ont inventé le tooting hein, depuis.
Voilà.
Le titting, plutôt.
Le boobzing, le boobzing, un voilà. Peu tout d'ailleurs. Hein, d'ailleurs.
Et les hommes ont inventé. Enfin bref.
Non, on va s'arrêter là.
Hein. Ouais, on va s'arrêter là. Sinon, depuis 1979, en Californie, dans la ville de Laguna Niguel, il y a une drôle de tradition qui consiste tous les deuxièmes samedis de juillet, donc c'est bientôt, donc si vous allez en Californie le mois prochain, n'hésitez pas. Les gens passent leur journée à montrer leurs fesses au train qui passe tout le long de la ligne de train. Et beaucoup de gens prennent le train ce jour-là pour voir cet événement unique, pour essayer de prendre des photos à la volée, comme ça.
Et plus il y a de gens dans le train, plus il y a de gens qui montent leurs fesses, et plus il y a de gens qui montent leurs fesses, plus il y a de gens dans le train.
Ils ne montent pas leurs fesses dans le train.
Non, non, mais y a plus les gens prennent le train pour regarder les fesses, plus les mecs se disent « bah attends, on va montrer notre cul aux mecs qui sont dans le train, c'est rigolo », et ainsi de suite. Enfin, ça n'a aucun sens.
C'est un bon jour pour l'économie ferroviaire.
Super.
De la région, en tout cas. Maintenant, on va passer à le gros du sujet. Le doigt d'honneur.
Ah.
Eh oui. Alors, à la base, rien destinait ce doigt à devenir l'un des... utilisé pour des gestes offensants. C'est l'un des plus utilisés, au final. Et c'est, bien sûr, la faute de notre esprit déplacé, car, en effet, des écrits ont commencé à associer le majeur à un symbole phallique. Forcément.
Bah oui, vu que c'est le plus grand.
Ah, donc c'était une façon de pas montrer ça, voilà.
Oui, c'était une façon, à la base, oui. Et donc, déjà, il y a 2500 ans que le doigt d'honneur existe, au final. Que le doigt d'honneur, enfin, le majeur est un symbole phallique, en tout cas. Et bon, même si à l'époque, montrer son majeur, ça n'avait rien d'offensant, ça le serait devenu aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc un petit peu plus tard. Et au 4e siècle après Jésus-Christ, cette fois-ci, il y a eu le premier cas reconnu de mooning, où le philosophe grec... De mooning, de doigt d'honneur. Je fais encore ce mooning.
Le mooning, j'ai cru que t'allais dire que le mooning se fait contrer par un doigt d'honneur. Et
on va avancer parce que là, je sens que ça a débordé. Ça va devenir moche.
Donc en fait, au 4e siècle après Jésus-Christ, c'est le premier cas reconnu de doigt d'honneur. C'est le philosophe grec Diogène qui avait fait un doigt d'honneur à l'orateur Démosthène. Donc c'était pour lui montrer son mépris, déjà à l'époque. D'ailleurs, le...
Je me demande si je te coupe, mais ouais. je crois qu'il est assez. Ça doit être un signe assez international. Hein. Je sais pas comment se fait, mais je crois qu'il est.
Très rapidement diffusé au final. Hein. Mais les gestes sont toujours plus internationaux que la parole au final.
Ouais, c'est pas faux.
D'ailleurs, le doigt, le majeur, a un petit nom chez les Romains qui s'appelle le digitus. Je sais pas comment dire. Digitus impudicus.
Le doigt impoli ou impudique.
Le doigt impudique, ouais.
Ah ouais.
Et donc, ce geste, c'est relativement éteint au Moyen-Âge, parce que l'Église catholique désapprouvait fortement ce geste, et on connaît bien l'influence, de toute façon, de l'Église catholique à l'époque.
Hein?
Et ceci dit, le doigt d'honneur a fait un retour fracassant en 1886, parce que sur la photo de son équipe, un des lanceurs de l'équipe de baseball de Boston a fait un doigt d'honneur. Et c'est la toute première photographie du doigt d'honneur, qui date de 1886. Donc je mettrai la photo dans les notes de l'émission.
Ah ouais, ça doit être excellent.
Il y a une légende urbaine aussi qui atteste que l'origine du doigt d'honneur viendrait plutôt de la bataille d'Agincourt en 1415. Donc c'était une bataille qui opposait les Français et les Anglais. Et les Français, ils voulaient anticiper leur victoire, avaient proposé de couper tous les majeurs des doigts anglais, enfin tous les majeurs des soldats anglais capturés.
Subtilité de la guerre.
Voilà. Car en fait, sans le majeur, il est impossible pour les soldats anglais de servir d'un arc, parce que celui qui sert pour... T'as plus assez de force dans les doigts pour utiliser l'arc.
Ah, tu peux plus bander, quoi.
Non, mais il a raison, parce que c'est le terme en plus.
Oui, non, mais tu as raison.
C'est fin.
Attends.
Et donc, pour narguer les Français, les soldats anglais qui avaient encore leur majeur,
leur montrer
aux Français. Voilà. D'où le, on retrouve encore cette, cette notion de narguer, narguer les gens. Il y a aussi le doigt d'honneur qui a souvent posé des problèmes militaires et politiques. Et on n'en parle pas, ça. Mais par exemple, en 1968, en pleine guerre froide, il y avait un bâtiment américain qui s'appelait le USS Pueblo qui fut capturé par la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, avait, on avait profité pour faire des photos de prisonniers américains pour leur petite propagande interne, quoi, si je peux dire. Et les soldats américains, ils en avaient profité pour faire discrètement des doigts d'honneur sur, sur les photos.
Pour, ah, ils n'avaient pas la télé, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire.
En, pour en quelque sorte ruiner les efforts des Nord-Coréens. Et les Nord-Coréens ne connaissaient pas la signification du geste parce qu'ils étaient complètement reclus sur eux-mêmes. Et les soldats américains avaient baratiné, ils avaient dit que c'était, c'était un geste hawaïen qui voulait dire bonne chance aux Nord-Coréens. Enfin,
ah, on peut prendre ça pour la bonne chance hein, si on veut. Hein. Mmh.
Et les, après, bon, après, les Nord-Coréens ont compris la signification du geste. Et pour rien vous cacher, ça s'est très mal passé pour les soldats américains. Voilà. Il y a une autre anecdote aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'était le 91e régiment de bombardiers. Qui faisait référence à ce doigt en appelant ça le doigt raide.
Et, oui, d'accord.
Déjà, vous voyez où je veux en venir, peut-être. Et ce geste, c'était à l'attention des pilotes de bombardiers qui faisaient souvent des erreurs ou étaient inattentifs. Et donc, c'était lié à l'expression « take out the rigid digit ». Donc, plus familièrement en français, c'est « sors-toi les doigts du... »
D'accord.
Voilà.
Du mooning.
Voilà.
Du
mooning. Sors-toi les doigts du
mooning. Magnifique.
Très bon. Et donc, des vétérans de ce régiment avaient... eux-mêmes créaient un award, ça s'appelait le prix de l'ordre du doigt raide, et ça récompensait les plus belles erreurs de pilotage de la part des bombardiers, quoi. Ou les plus belles, les plus belles boulettes, voilà. Et donc la statuette, c'était une main fermée avec le majeur en l'air, donc voilà.
Ah, je te fais le... ça m'évoque un truc, tu parles d'avion, de... Mm-hmm. de doigt, voilà. Il y a Top Gun est repassé il n'y a pas si longtemps que ça, sur la télévision.
Ouais.
Si vous vous souvenez, le film avec Tom Cruise où il est pilote d'avion, et à un moment il se met au-dessus d'un MiG à l'envers, et pour lui dire bonjour, ils font tous les deux un doigt d'honneur, et, et il doit expliquer ça après en lui disant bah voilà, on est monté au-dessus du MiG, puis on leur a fait un signe, et d'entente cordiale, et ils disent ah bon, mais quoi comme signe, et voilà. Donc ça a la mode chez les pilotes. Hein.
Oui, oui. Bah, on atteste les pilotes. C'est surtout, c'était beaucoup utilisé pour les pilotes, mais ça n'avait pas ça avait plus cette connotation de réagis, fais quelque chose, sors-toi les doigts du mooning, comme on a dit.
Oui.
Et juste pour finir avec le doigt d'honneur, il y a une loi fédérale aux États-Unis qui dispose que le doigt d'honneur relève aussi de la plus stricte liberté d'expression.
Oh.
Je sais pas ce qu'ils ont avec. Mais je vous conseille pas d'essayer néanmoins parce qu'il y a des personnes qui ont eu un petit souci avec ça. Je vais passer au dernier geste et pas des moindres. C'est le V de la victoire. Donc faire un V avec l'index et le majeur. Donc V de la victoire, c'est un geste très bien connu, vous en avez peut-être en tête l'image de Winston Churchill qui fait le V de la victoire en 1945.
Pour célébrer Jacques Chirac.
Ah oui, aussi, manger des pommes. Et oui, c'était
pas pareil.
Il faisait le V aussi, ouais, c'est vrai.
Pour manger pommes, tout ça. Ouais. Ouais, exactement.
C'est rigolo, moi j'ai une image d'une pub Citroën des années, tout début des années 80 où il faisait. C'est un symbole, il me semble, qui est en Chine et au Japon très très utilisé. Mm. Alors je sais qu'au Japon ils le font, je te coupe 30 secondes, quand tu les prends en photo, si vous regardez les photos d'idol ou les photos de japonais, ils font ça, ce que nous on ferait jamais parce que. Voilà, et eux ils ont vraiment ce truc là de sourire et de faire le V de la victoire. Alors un peu penché, il n'est pas en forme de V, je pense qu'il est un peu penché.
C'est con parce que le V ça n'existe pas chez eux.
Complètement, donc c'est pour ça que je pense que c'est pas un V, mais c'est les deux doigts écartés dans un angle de 45 degrés quoi.
Ouais, mais ouais, c'est ça bien. D'ailleurs, si vous faites le V de la victoire, la paume vers la personne, c'est plutôt safe. Si vous faites le dos de la main vers la personne, c'est plus offensant. D'ailleurs, en parlant du V de la victoire, on a pu retrouver des références de ce geste jusqu'en 1930, mais c'est très nébuleux, donc je vais passer plutôt que dire des bêtises. On n'a jamais su vraiment sa signification. Et en fait, le V de la victoire remonte à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Le V devient ouvertement un signe anti-nazi. Parce qu'à l'époque, l'ancien Premier ministre belge, qui était alors le speaker de la BBC au début de l'année 41, a proposé d'utiliser ce geste de lutte contre les nazis, en fait. D'autant plus que la France et les Anglais s'y retrouvaient, parce que c'était la première lettre du mot « victoire » ou « victory », et du mot « liberté » pour les Néerlandais, donc ça unissait tout le monde. Donc, ça peut paraître léger comme signe de lutte, mais au final, ça suffisait à unir tout le monde. Donc, Et donc l'opération de communication a eu un grand succès, d'où ce qu'on a appelé à l'époque la fameuse campagne des V.
D'accord.
Et donc c'est assez dingue de voir le cheminement et la portée qu'un simple petit geste a pu avoir comme ça, puisque je vais vous faire écouter un petit quelque chose en rapport toujours avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Alors,
Beethoven ?
Ouais, alors je vais vous faire écouter les quatre premières notes. Vous voyez toujours ?
Pom 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 ?
Ouais, alors en fait, pourquoi je vous parle de ça ? En fait, ce que vous venez d'entendre, donc c'est la 5e symphonie de Beethoven. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'en fait, les quatre premières notes de cette 5e symphonie, correspondent à l'équivalent en morse de la lettre V, du signe du V de la victoire.
C'est trois courts et un long, quoi.
Voilà, trois courts et un long.
Oh la vache.
D'ailleurs, ça se lit en code morse, ça lit di-di-di-da. Voilà. Et en fait, dès que la BBC émettait le début de cette 5e symphonie, donc ces quatre premières notes, c'était en quelque sorte un indicatif de Radio Londres. C'était une façon de prévenir les gens qu'ils allaient parler de la guerre. Donc venez, écoutez la radio, on va parler de la guerre de façon cryptée dans nos news, quoi.
Pas c'était... mal.
Et ouais, c'est excellent.
Et ouais, c'était un petit code. Pour terminer, alors c'est Winston Churchill qui a largement contribué au succès de ce signe, parce qu'il faisait dès qu'un photographe était présent. Et les Allemands avaient aussi lancé une campagne de propagande qui réutilisait ce symbole autour du mot allemand « Victoria ».
Ouais.
Afin de contrer le V des alliés. Mais ça n'a pas eu le succès escompté. Voilà. Pour l'histoire du V. Donc,
Il a été dit dans la chatroom, je ne sais pas si tu allais en parler ou...
Alors,
enfin, Freux nous dit, je crois que c'est Freux ou FR3, je ne sais plus, Freux 3, peu importe. Enfin, j'ai du mal avec son pseudo. Que c'est aussi, c'est vrai que le symbole de la paix américaine, les hippies dans les années 70,
oui.
Pour faire Peace and Love, faisait ouais, ouais, le...
Ça... Bah ça... Ça vient de là, parce que liberté et...
Tout à fait. Oui. Non, mais c'est marrant, c'est qu'il perd le symbole de victoire face armée. Enfin, voilà, Winston Churchill fait ça comme une victoire de guerre, et il se transforme en signe de paix. C'est quand même assez rigolo.
Ouais, ouais, mais c'est pas anodin, au final. Parce que les idées, surtout au niveau des gestes, ont souvent bien perduré, au final.
Ouais, non.
Voilà, c'est tout pour ce petit dossier.
Bah, c'est vachement bien.
Ouais, mais
il faudrait que tu nous fasses le bras d'honneur un jour. Quand
ouais,
on sache
mais
quand
même. En fait, le bras d'honneur, c'est juste une extension. C'est plutôt français, le bras d'honneur. Ça a été dit,
il nous faut l'exception culturelle française.
Ah, c'était,
voilà.
C'était plus français. Je voulais aussi parler, par exemple, des applaudissements. Il y a des choses à dire sur les applaudissements.
Ah, notamment, je vous recommande des sourds qui sont en train d'applaudir. C'est pas une blague. Hein. Les sourds ne clapent pas des mains quand ils applaudissent. Alors, décrire ça là, comme ça en parole, c'est vachement dur. Ils tournent les mains comme des marionnettes. Vous voyez un peu comment on fait les marionnettes en tournant les mains les mains séparées. Ardisson faisait ça dans ses émissions avant pour faire de la promo. Et c'est comme ça que des sourds applaudissent. Et la première fois qu'on voit une salle entière de sourds à pas applaudir, donc manifester leur contentement du spectacle juste en agitant les mains sans se toucher.
Ouais.
Ils font les marionnettes, dit Titour, c'est ça quoi. C'est très très bizarre. Comme
ouais.
Là, il y a un effet. On a l'habitude de clapper des mains.
Et il y a aussi quelque chose au niveau des applaudissements, on en parle quelques secondes. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la claque, et c'était le fait d'engager des applaudisseurs, je sais pas comment on dit.
Ça ressemble à un chauffeur de salle, ou la claque.
Des applaudisseurs professionnels dans les spectacles pour
lancer
le public, pour lancer les applaudissements, en fait. Un petit peu comme...
Sur les plateaux de télé, c'est ça, ils font ça, les mecs sur les plateaux de
ouais,
télé.
Mais après, ouais, et après, on se retrouve quand même ce petit côté artificiel, donc c'est moins spontané.
Bah oui.
Malheureusement. Parfait, je pense qu'on va passer au deuxième dossier de Laurent. Alors, je t'ai préparé un jingle, et alors, je vais le passer et on en discute juste après, d'accord ?
D'accord.
Est-ce que tu peux expliquer ce jingle ?
Est-ce que je peux expliquer ? Oui, alors. Ce jingle est une interprétation absolument magistrale au mélodica. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le mélodica, je vous invite à faire une petite recherche Google. C'est un espèce de truc dans lequel on souffle, où il y a des touches de piano tout petites. Alors, l'interprète n'est autre que la fabuleuse Apollinaire.
Ah oui, on lui fait coucou.
qu'on lui fait coucou, absolument, il me dit merci. Et le thème est le thème du Bro Clash, qui est l'émission que je fais avec mon frère. Et ce petit cadeau m'a été fait au cours d'une forme de publicité pendant Queen Novi par Barberousse et son équipe, dont toi évidemment, mais et d'autres. Donc voilà, donc je vous remercie encore beaucoup, beaucoup. On était très, 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 très touchés avec mon frère de cet hommage au Melodica. Et la Polymer qui a pris sur son temps, j'imagine, pour faire ça, parce qu'en ce moment, elle est en train de faire un spectacle dont vous avez entendu parler, donc je vous recommande d'aller, qui est la bande du tabou. Mais voilà, c'est vraiment un truc, oui, c'est une version du Bro Clash assez spéciale. Absolument.
Voilà, c'est juste pour la petite.
Merci, c'est gentil.
Vas-y, tu peux y aller pour ton dossier. Tu vas nous parler de quoi alors, au final?
Je vais vous parler de Ghibli. Alors, Ghibli. Quand je le dis comme ça, on se demande un peu ce que c'est, parce qu'en France, on a tendance à dire Ghibli, G-H-I-B-L-I, et c'est le studio d'animation japonaise, très connu, auteur des films d'animation comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, voilà. On le connaît nous comme ça, alors ça se prononce Ghibli à la japonaise.
Ghibli, on est d'accord. Oui. C'est comme GIF et GIF, il y a toujours cette petite guerre là-dessus.
Oui, voilà, sauf que le créateur du GIF a mis tout le monde d'accord, c'est ça. Alors, ça va être assez simple, hein. Je vais vous parler un peu de l'origine du studio, parce que comment ce studio est un peu né, de revoir un petit peu la filmographie au cours du studio, comment elle a d'abord débuté par être très connue au Japon, puis après a explosé dans le monde entier. On va parler un peu de la relève, parce que le studio porte sur des personnes, sur un trio, même un duo de personnages, et on se demande qu'est-ce qui va se passer, parce qu'un jour ils vont peut-être arrêter de faire des films. Donc voilà, on va évoquer un peu ce qui va arriver demain, et puis les prochaines sorties de films. Et puis je vous ferai un petit bonus, mais je vous dis pas ce que c'est, qui sera assez court, mais voilà, je vous évoquerai une chose qui est en lien avec le studio. Alors l'origine, bah, c'est qui alors? L'origine, c'est deux personnes, principalement, qui sont évidemment Hayao Miyazaki, pas très connu, et Takahata, je vais trouver son prénom dans 30 secondes.
Michel.
Ouais, c'est pas terrible ça quand même. Hein.
Francis.
Isao Takahata. Ces deux animateurs qui se connaissent depuis les années 60, ils ont partagé, tous les deux, ils ont travaillé sur des séries télévisées au Japon, animées évidemment, c'est donc ces deux animateurs. Et donc, ils se sont rencontrés, ils ont accroché, ils ont travaillé sur Lupin 3, par exemple, sur Heidi, sur Conan, voilà, qui sont des séries animées sur lesquelles ils se sont plus ou moins rencontrés. À un moment, dans les années 70, ils se rencontrent au milieu des années 60, dans les années 70, la télévision japonaise produit de plus en plus d'animés, et du coup, de plus en plus, avec une qualité de moins en moins intéressante. On en reparlera dans ce qu'on verra, nous, en France, qui date plutôt des années 80, mais voilà. Tous les deux, Miyazaki et Takahata, merci Barbosso, c'est bien Isao, Takahata ont envie de faire des choses de qualité, ont vraiment une envie de monter ça, et de monter leur propre studio d'animation de cinéma. Tout de suite, ils se disent, on a envie de faire des choses, donc on a envie de créer un studio indépendant japonais. Donc au début des années 80, ils décident de se lancer dans l'adaptation d'un manga qu'a écrit Hayao Miyazaki, qui s'appelle Nausicaa. Voilà. Un manga qu'il a publié dans une revue. Et il se lance sur le projet. Et ça va prendre, parce que c'est... Alors, ce qui est étrange, c'est que le studio est pas... Nausicaa, quand Nausicaa est produit, c'est pas encore Ghibli. Hein.
Nausicaa, c'est le premier qui a été produit.
Pas par Ghibli. Premier officiel, c'est la Puta, c'est le Château dans le Ciel. À l'époque, ils prennent contact avec la Toei Animation, qui est un gros morceau. Nous, on a bouffé des dessins animés de la Toei pendant énormément. Et avec un monsieur qui s'appelle Toru Hara, et qui a créé une petite société qui s'appelle Topcraft. Et l'équipe autour de Topcraft, qui va les aider à créer Nausicaa, va être vraiment le noyau de ce qui va devenir Ghibli juste après. Dès le début, il se pose la question. Il faut savoir qu'à l'époque, un film d'animation, on va embaucher des gens juste pour faire le film, puis après on les lâche et on en embauche d'autres. Enfin voilà, ce qui se fait beaucoup dans l'animation, même américaine ou même Pixar est un peu particulier, mais il y a toujours l'idée de, au moment où on fait un projet de film, en France c'est beaucoup ça, on fait un projet de film, on va chercher des animateurs, on les rassemble, On fait le film, puis après ils se dispersent, ils vont faire autre chose. Dès le début, Takahata et Miyazaki ont envie d'avoir des fixes. On se dit, on aura une qualité vraiment intéressante si on arrive à garder des gens en fixe. Donc c'est un peu leur idée. Nausicaa est produit, il a, avec un bon succès, il fait 915 000 entrées au Japon. Hein. Pour l'instant, je parle que du Japon parce que ça reste là-bas. Donc on commence à se dire que c'est possible. Voilà. Donc il y a une société qui s'appelle la Tokuma, je crois, qui accepte qui est une branche d'édition, voilà, qui accepte de financer les films, de financer ce qui va devenir le studio Ghibli. Ghibli, ça c'est on est en 86, je crois ce que j'ai dit, ouais à peu près.
86 oh, c'est pas si vieux, je pensais que c'était.
Ben non, parce que. Non, parce que les premières œuvres, Nausicaa, c'est 84, donc là on est entre les deux. Et la série Sherlock Holmes date avant, c'est encore. Tout ça, c'est pas Ghibli encore, hein. Tout ça, c'est les séries où ils travaillaient l'un et l'autre. Et il faut attendre 86, donc c'est 86 avec Le Château dans le Ciel où est créé à ce moment-là vraiment Ghibli, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut savoir que cette société, il faudra attendre presque 2005 pour que Ghibli se sépare de cette société-là et devienne indépendante à ce point-là. Donc, Takahata et Miyazaki se lancent dans ce studio. Alors, Ghibli, ça veut dire quoi ? Ghibli, ça veut dire le vent chaud du désert. C'est un terme utilisé par les aviateurs, et on sait très bien que Miyazaki est un passionné d'aviation. On retrouvera ça dans Porco Rosso, où il y a des hydravions. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire Ghibli. C'est un choix qui fait. Ce qui est un mot qui n'est pas trop japonisant, bizarrement. Il y avait un choix de choisir ce mot pour qu'il ne soit pas complètement japonais. Pour financer leur film, ils se basent sur le succès de Nausicaa. Et on verra que dans Ghibli, chaque film finance le suivant. Donc ils n'ont pas le droit de se rater. Ils ont de la chance depuis 86, c'est quasiment jamais arrivé. Ils sont toujours suffisamment de succès pour pouvoir financer le film d'après. Donc on arrive à la Piuta, le château dans le ciel, et la vraiment création de Ghibli. La Piuta est aussi un succès, plus de 775 000 entrées. Donc du coup, là, de manière étonnante, ils décident de produire deux films en même temps, qui est Mon voisin Totoro, très connu, et Le tombeau des Lucioles. Alors, Mon voisin Totoro va être porté par Miyazaki, le tombeau des Lucioles par Takahata.
Je sais pas si en vous parlant juste de Mon voisin Totoro.
Voilà, la magnifique musique de Totoro. C'est marrant parce que la différence est très particulière où Totoro est vraiment une œuvre liée à l'enfance avec des thèmes un peu plus durs, mais c'est plutôt léger quand même par Miyazaki. Le tombeau des Lucioles, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça vous dit quelque chose ou pas ?
Non, j'ai pas vu du tout.
C'est après le bombardement d'Hiroshima. C'est deux enfants, un frère et une sœur, qui se retrouvent un peu tout seuls. Et globalement, je vous spoil, dès le début, on sait que la sœur est irradiée et va mourir. Voilà. Et elle a 7-8 ans, lui, en a 10 ans. Donc c'est un espèce de. C'est un film magnifique, mais qui te fait pleurer. Parce que plus t'avances, plus tu sais qu'elle va mourir, et plus ça devient dramatique. Enfin voilà. Donc c'est deux œuvres très différentes, qui marchent toutes les deux. Toutes les deux fonctionnent plutôt bien. C'est plutôt des succès critiques encore. On sait pas encore, mais on sent que le studio a quelque chose de qualité, il commence à avoir des récompenses, pas encore à l'étranger, mais voilà, c'est les deux films vraiment encore qui vont faire dire que le studio peut être pérenne et va durer dans le temps. La preuve, Totoro va être utilisé, c'est aujourd'hui le symbole du studio Ghibli, c'est Totoro. Hein. Rentre à ce moment-là dans Ghibli un monsieur qui s'appelle Toshio Suzuki, qui va être le producteur. Autant Takahata et Miyazaki sont des artistes, autant lui va gérer un peu plus le côté production.
Un côté créatif avec les deux, Takahata et Miyazaki. Et puis, d'accord.
Le premier grand succès du studio Ghibli, c'est Kiki la petite sorcière chez nous, voilà, de 89, qui fait plus de 2 millions d'entrées, qui est vraiment un truc énorme au Japon. À partir de Kiki la petite sorcière, à une exception près, j'y reviendrai, tous les studios Ghibli sont les premiers au box-office au Japon, devant Spielberg, devant. Voilà. C'est vraiment quelque chose de. Ça cartonne à ce moment-là, quoi. Du coup, le studio passe de quelque chose de petit, il commence à développer quelque chose d'industriel. l'équipe grossit et Miyazaki et Takahata réalisent leurs rêves, ça veut dire qu'ils ont un fixe. Ils ont des gens qui travaillent tout le temps avec eux, c'est toujours les mêmes, c'est une équipe très serrée, ce qui donne cette unité à tous les films propres au studio Ghibli. Hein. Par contre, avoir des gens fixes comme ça, bah, faut les payer, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des projets en route. Donc les projets vont jamais s'arrêter, voilà, c'est quelque chose de permanent. Tout de suite après, il y a quelque chose qu'on connaît pas nous en France de Takahata qui s'appelle Souvenir goutte à goutte, qui est une grosse réussite au Japon. Plouk, absolument. Voilà. Voilà. Et qui vraiment met en place cette politique, alors que moi j'appelle industrielle, mais qui est exagérée, mais en tout cas d'avoir une équipe fixe. Donc tout de suite, il se lance dans Porco Rosso, dans la mise en chantier de Porco Rosso. Voilà, qui est quand même. Là, on en est à. À chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, ils sont agrandis. Les studios représentent des gros studios, ce qui est vraiment étonnant en animation japonaise. Aux États-Unis, il n'y avait que Disney qui avait des studios comme ça. Là, ils se mettent à grossir et à avoir vraiment un lieu, un studio dédié à ça. Arrive en 94, alors que je ne vous dise pas de bêtises, il ne faut pas que je me mélange dans mes. Avec. Hop, attendez, j'ai un. Je veux pas vous dire de bêtises. Ouais, Pompoko. Voilà. Pompoko, c'est Pompoko, il est sorti en DVD en France. Je sais plus si. Je parle pas qu'il doit être sorti en salle, mais un peu particulier. Pompoko, c'est l'histoire de Tanuki. Tanuki, c'est des ratons laveurs japonais. C'est un peu particulier.
D'accord, oui.
Qui se transforment et qui ont des grosses testicules. Voilà. C'est important à préciser. Non, je.
Quoi ?
Oui, je plaisante.
Quoi ?
Pas.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Non, je
vous
jure.
Ici, hein.
Le tanuki est une créature, alors c'est un véritable animal, je vous dis, c'est un gros raton laveur, on va dire.
C'est vrai aussi le coup des testicules.
Et il est toujours représenté avec des grosses testicules, et quand vous voyez Pompoko, c'est une histoire réelle, ça veut dire que c'est un projet de construction d'urbanisme à Tokyo qui va écraser une forêt, et les tanuki vont défendre cette forêt contre le... absolument. Vont défendre la forêt contre cette urbanisation. Il faut savoir qu'à l'époque, ça se passe à Tokyo. Tokyo a des vrais problèmes d'urbanisation. C'est une ville énorme. Je leur parlerai un petit peu après aussi. Donc, c'est vraiment cette histoire est vraiment est réelle. Pas l'histoire du fait qu'ils soient défendus par les tanuki, mais voilà, des ratons laveurs à grosses burnes, nous dit Barberousse, c'est tout à fait bien résumé. Parce qu'on les voit, par exemple,
merci Barberousse.
Je vous spoil une petite scène, mais il y a un moment où il y a des pelleteuses qui arrivent pour éradiquer la forêt, et le Pompoko va bondir et va attraper ses testicules pour enrober tout, pour couvrir tout le. Si, je vous jure, tout le tractopelle. Voilà.
Est-ce qu'il s'en sert comme ballon sauteur ou...
Ah bah il manipule ça beaucoup avec. C'est très très bizarre parce que voilà, je pense que montrer ça sur notre culture, ça choquerait. Mais nous, eux, ils sont dessinés comme ça. C'est des icônes. Il y a beaucoup de choses qui. C'est des animistes. La société japonaise est très animiste. Et donc il y a des esprits dans tout, y compris dans les tanuki, alors qu'ils se transforment. Donc voilà. Donc c'est vraiment un beau film de Takahata. Et c'est la première fois qu'on utilise de l'image de synthèse au studio Ghibli. C'est aussi une première. Pour Disney, par exemple, c'est La Belle et la Bête qui doit dater aussi de cette époque-là où l'informatique arrive suffisamment à maturité pour qu'on commence à l'intégrer là-dedans. Et puis arrive le vrai succès qui est Princesse Mononoke où là, c'est vraiment quelque chose où ça va dépasser un peu les frontières pour deux raisons. Et du coup, je fais un petit par. Presque une aparté, c'est que pour sortir du Japon, le studio Ghibli a pas le poids pour distribuer ses films. Donc il se dit qu'est-ce que je fais, avec qui je signe. Il faut savoir qu'à partir de cette période-là, Pompoko et surtout la Princesse Mononoke, bah la Fox, la Warner commence à titiller,
s'intéresser,
ouais. À dire venez, ce serait pas mal que vous fassiez avec nous ces trucs, voilà, que vous travaillez avec nous. Et finalement, en juillet 96, Ghibli signe un accord avec Buena Vista Home International, qui s'appelle plus communément Disney. Donc c'est la souris elle-même qui va exploiter une grande partie des films du studio Ghibli. Alors ils ont le droit d'exploitation partout sauf en Asie, évidemment, puisque Ghibli arrive à distribuer en Asie, mais pour le monde, voilà. Il y a beaucoup, tout le monde, enfin l'image s'angoisse parce que ça y est, ils ont vendu leur âme, c'est la catastrophe et tout. Alors, L'idée, c'est que de toute façon, Disney ne fait que distribuer les films. L'accord dit que il est interdit à Disney d'intervenir sur les films. Enfin, voilà. Alors, parce que Nausicaa était sortie aux États-Unis, elle avait été un peu tronçonnée, coupée, remontée, comme ça faire les Américains. On a fait pareil en France avec les dessins animés japonais qu'on recoupait, oui, qu'on remontait pour arranger la sauce.
Les couteaux de cuisine et tout ça.
Voilà, tout à fait. Par contre, finalement, là, Disney va plutôt bien se comporter. Pourquoi Ghibli accepte aussi ? Parce qu'ils sont le Princesse Mononoké et ça, je me suis trompé, c'est juste avant Princesse Mononoké. Ils ont un peu besoin d'argent pour la grosse production qui est Princesse Mononoké. Donc ça, il y a un petit côté où ça va leur donner un petit afflux d'argent qui va les aider pour finaliser Mononoké. Finalement, l'accord avec Disney et sa relève est une réussite parce que ça va permettre au monde entier, y compris la France, de découvrir beaucoup mieux les œuvres du studio Ghibli. Et globalement, Disney n'a pas été trop violent. Alors bon, si quand même, pour Princesse Mononoké, ils ont enlevé le générique original, ils font une chanson en anglais, ils ont failli mettre Madonna quand même. Donc voilà, bon, on y a échappé.
Oh putain, quelle horreur.
Par contre, il n'y a aucune scène qui est coupée sur les 2h15. Mononoké fait 2h15, ce qui est énorme. Il y a des scènes de violence assez dures. Tout ça, c'est rien de coupé. Voilà, il y a vraiment peu de choses, peu de problèmes. Même Disney a investi 10% dans un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle Mes voisins, les Yamada de Takahata.
Oh, oui. Ouais, je connais.
Et qui est très très bizarre, alors qui sera un espèce de demi-succès parce que c'est un dessin très particulier. Mais c'est la première fois que Disney investit sur un dessin animé hors des États-Unis. Donc c'est quand même très particulier. Donc voilà. Alors, finalement, on va avancer un petit peu. Hein, sur la relève, qu'est-ce qui va se passer après ces succès? Alors en 2001, il y a quelque chose d'énorme, c'est le Voyage de Chihiro, qui a des prix à travers tout le monde, qui est primé au Festival de Venise, qui va être Oscar du meilleur film étranger, enfin voilà, qui a un carton quasi planétaire. Donc vraiment, c'est là l'explosion et le triomphe du studio Ghibli. Ils en profiteront pour continuer à s'étendre un petit peu. En 99, deux ans avant, ils ouvrent un musée Ghibli. C'est-à-dire quand ils déplacent ils quittent les premiers lieux qu'ils avaient, les lieux précédents, pour avoir encore plus gros, et ils créent le musée Ghibli. Mais le musée Ghibli, j'y reviendrai un peu après. Donc voilà. Alors, il se pose la question à ce moment-là de la succession, de l'avenir, parce que ces deux bonhommes qui sont là depuis quand même des années, ils sont un peu en manque. Enfin. On se dit qui peut continuer. Sur une écurie comme Disney, il y a plein de réalisateurs. Il y en a vraiment énormément. Là, eux, c'est toujours été centré sur eux. Ils ont principalement, eux, fait toutes les succès de Ghibli depuis le début. C'est ou Miyazaki ou Takahata. Oui. Ils commencent à essayer d'embaucher des gens pour tester. Voilà, il y a des gens ils vont embaucher. Je vais vous retrouver son nom.
Est-ce qu'au final, il n'y avait pas une crise des idées de leur part ?
Au point de vouloir. Pas forcément. C'est vraiment l'idée d'un moment de. Miyazaki a plusieurs fois annoncé sa retraite de fatigue. Souvent, il est revenu parce qu'il y a eu. Alors, il y avait un collaborateur proche qui est décédé, donc finalement, il voulait partir, mais il ne revient pas. C'est un personnage, Miyazaki, qui annonce sa retraite depuis très très longtemps. Hein, voilà.
Ouais.
Le Royaume des Chats, par exemple. Péremptoire, ça va te plaire. Qui est une réussite, qui est travaillée avec. Qui est un des premiers films qui est fait par Hirokuyi Morita, qui est un des premiers films fait ni par Miyazaki, ni par Takahata. Qui a un succès relatif, mais voilà. Juste après, Le Chaton Ambulant, c'est à nouveau Miyazaki, qui est en 2004. Voilà, tout ça c'est proche.
Pas le chaton, hein, le château.
Le château ambulant, pardon.
Ce serait tellement bien le château ambulant, franchement.
voilà. C'est une période où Miyazaki, par exemple, pour le château ambulant, fait peu de publicité. Le film cartonne quand même, mais décide de faire peu de publicité.
Le seul nom de Miyazaki suffit à faire vendre le film.
À ce moment-là, oui. Voilà. Et puis arrive Le Conte des Terres et Mers en 2006, qui est réalisé par Gorō Miyazaki. Gorō Miyazaki, c'est le fils de Hayao Miyazaki. C'est compliqué parce qu'il n'était pas animateur. C'est lui l'architecte du musée et il n'était pas animateur depuis des années. Le réalisateur précédent était animateur et était suivi une espèce d'évolution. Le fils de Goro, enfin le fils d'Hayao Miyazaki, Goro, lui arrive un peu amené par une autre personne du studio, même pas par son père. La presse japonaise va beaucoup appuyer sur l'opposition qui se passe entre le père et le fils. Je vous rappelle, alors il aime pas. Il y a des choses rigolotes. Les contes des terres et mers s'ouvrent sur un fils qui assassine son père, quand même. Donc voilà. Donc c'est pas. C'est un peu particulier. La première projection du film des contes des terres et mers, qui est un projet que Miyazaki père voulait faire depuis longtemps, la première projection au studio, le père se lève avant la fin du film et se barre. En disant qu'il aime pas. Enfin, voilà, ça a été quand même compliqué. Goro a fait un journal sur le net évoquant tous ses problèmes de tournage. Enfin voilà, il a vécu ça vraiment comme un traumatisme au point qu'on s'est demandé s'il en referait un deuxième. Donc voilà. Donc pour la relève, c'est encore un peu compliqué quoi.
Prends les feuilles en papier.
Ouais, je sais.
C'est pas 2.0 ça. Hein.
Ah ben je sais. Hayao Miyazaki revient à la réalisation. Vous voyez, à chaque fois, il avait déjà annoncé une ou deux fois déjà sa retraite. Il avait envie de faire un film très orienté sur les enfants et il fait Ponyo sur la falaise.
Ah, je l'ai pas aimé du celui-là.
Pour cette raison-là, Ponyo sur la falaise, je pense, c'est vraiment un film très très enfant.
Surtout quand on le regarde à 5h du matin.
Oui, on a vécu la même chose lors de la nuit Miyazaki au Max Linder. Mais c'est un beau film, mais c'est vrai qu'il fait très simple, qu'il n'a pas la profondeur du château ambulant, la dureté d'un Mononoke. Donc là, ça c'est 2008 Ponyo. En 2010, Arrietty, qui est sorti avec une musique de Cécile Corbel, je crois, qui est une bretonne, absolument.
Oui, répète ça, Barberousse.
Voilà, n'est pas réalisé par les deux. C'est réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Donc pareil, c'est encore un test, alors je pense qu'il va être un peu plus concluant, parce que voilà, on avance quand même dans l'idée qu'il y a une relève possible, même si les deux ont du mal à lâcher l'affaire. Bah, la preuve, Miyazaki va revenir, alors Goro va revenir pour La colline au coquelicot en 2011. À nouveau le travail entre le père et le fils va être beaucoup plus synergique, ça va beaucoup mieux marcher. D'abord parce que la colline au coquelicot, c'est l'enfance de Hayao Miyazaki, c'est un scénario de lui, il a été plus présent et évidemment ça a mieux fonctionné. Le film est beaucoup mieux passé auprès de la critique quand même globalement. Donc voilà. Donc il y a quand même encore toujours, on se demande qui, parce que le prochain film de Ghibli, ce sera Kaze Tachinou. Pour l'instant, j'ai pas de titre français, vu qu'il va sortir à l'été 2013, là. Et c'est Miyazaki qui réalise. On sait pas trop de quoi ça parle. Il a gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets. On sait que ça parle de... Il y a encore des avions, il y a encore... ça va porter sur un... Peut-être sur un peintre, voilà. Ça s'appelle Le Vent se lève, pardon. Voilà. Donc c'est vraiment à nouveau on retrouve Miyazaki et le Hayao. Donc voilà, donc comme quoi la retraite n'arrive pas, Takahata a du mal à finaliser des projets, il devait faire un film aussi en même temps qui est repoussé, on sait pas à quand. Donc voilà, donc ça a jamais aussi bien marché pour le studio de Ghibli, et à la fois ils ont quand même des petits problèmes internes, alors qui fonctionnent, ils ont fait un jeu vidéo sur PS3
Ni no Kuni.
Ouais. Le studio est devenu dépendant en 2005, ce que je disais, il s'est séparé de la branche d'édition qui les portait depuis le début, notamment grâce aux produits dérivés, parce qu'évidemment il y a des milliers, des milliards de peluches Totoro qui se vendent, ouais. Qui est un des plus gros,
n'est-ce pas Petit Ours,
absolument. Je vous rappelle que George Lucas était aussi un cinéaste qui est devenu indépendant grâce à ses produits dérivés, hein. Donc voilà. C'est vraiment ce qui fait la particularité de Ghibli un peu. Au moment où ils ont démarré dans une époque où l'animation japonaise était dans un état d'industrialisation médiocre pour la télévision, eux ont une volonté de faire de la qualité. Ils sont devenus indépendants. Je vous ai parlé de l'idée d'avoir non pas une équipe disparaître à chaque fois, mais d'avoir une équipe fixe. Donc voilà, tout ça fait vraiment une particularité sur cette animation japonaise qui nous est arrivée, qui est un fer de lance. Énorme pour eux, parce qu'après ça, on a pu avoir, nous, d'autres animateurs japonais hors Ghibli, les Jinro. Jinro, c'est un film, hein, Ça y est, il manque un film très connu, Cyberpunk, Ghost in the Shell. Donc voilà. Tout ça, c'est des choses qui ont amené à la particularité du Ghibli et qui ont fait son succès. Sauf que maintenant, Ghibli doit trouver les moyens de continuer encore dans le temps si un jour les deux créateurs de base venaient à s'arrêter. Je leur souhaite pas de disparaître le plus tard possible. Mais voilà. Petit bonus, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais vous parler quelques instants du musée Ghibli, parce que j'ai eu la chance de, vous voyez, d'aller à Tokyo il y a même pas un mois. Enfin, voilà, j'ai passé 3 semaines à Tokyo et j'ai pu visiter le musée Ghibli. Vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Tokyo, alors le voyage, il y a plein d'autres choses à faire, mais aller au musée Ghibli, c'est vraiment magique. Ils ont réussi à recréer quelque chose. Le musée, il n'y a pas de parking devant, faut imaginer. C'est dans un parc, donc faut y aller à pied. Le métro, le premier métro est à 700, plus 700 mètres, quoi, ce qui fait pas mal. Donc il y a un côté, on n'a pas dans le côté industriel d'un Disneyland où il y a un parking de 2000 hectares devant, quoi. On y va à pied, c'est une petite structure. Faut réserver ses billets il y a des heures, c'est-à-dire qu'à 14h vous pouvez rentrer. Voilà, quand on réserve son billet, il y a une heure dessus. C'est une maison complètement baroque. Enfin, très bizarre, avec des escaliers en colimaçon, avec des petites voûtes, avec des portes plus petites que d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment dans un univers complètement propre à Ghibli d'ailleurs. C'est à la fois pour les enfants, parce que par exemple il y a un chabus. Vous connaissez le chabus de Totoro, en peluche, mais qui fait 3 mètres de long et 1 mètre de haut. Un énorme chabus qui est réservé aux enfants. C'est-à-dire que les adultes n'ont pas le droit d'aller dedans, alors que les enfants ont le droit d'aller, de monter dedans, de s'amuser dedans. On traverse à travers des pièces, comme si on était dans les ateliers des animateurs qu'ont été Miyazaki ou Takahata, avec tous leurs livres, toutes leurs inspirations, des croquis, des cellulos, plein de petites choses. On est vraiment, alors c'est typique d'ailleurs du côté japonais, c'est-à-dire qu'on se promène on peut toucher les objets, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sous vitre, tout est accessible. On est au Japon, on ne touche à rien. Voilà. Je ne sais pas si ce serait faisable en France, mais bon. On se balade, parmi tout leur univers, on voit que tous ils ont vu des choses françaises, par exemple. On cite souvent Le Roi et l'Oiseau, qui est un dessin animé français des années 70, je crois, fin 70, avec un scénario de Jacques Prévert, ils l'ont vu. Voilà, c'est des choses où ils ont cette inspiration-là. On voit toute leur inspiration, c'est vraiment magique. Et puis, il y a des diffusions de courts-métrages qu'on ne peut voir qu'au musée de Ghibli. Donc voilà, quand vous avez vu des courts-métrages là-bas, il y a une espèce de snobisme qui dit, voilà, moi j'ai vu un court-métrage sur un chabus, sur un chatonbus. Voilà, ça me plairait encore beaucoup à péremptoire, et on ne le voit que là-bas. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Sur le sommet du musée, on peut aller accéder, tout est recouvert de végétation, et il y a un robot de la Piuta à taille réelle, le robot de Château dans le ciel. Donc voilà, donc c'est quelque chose, il faut vraiment, si vous allez à Tokyo, ratez pas ça, ça se prend en avance, mais il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et voilà. Et comme dit Barberousse, je reviens sur la fin de mon petit dossier, il a raison, il est probable que l'avenir de Ghibli viendra d'autres personnes que de, même s'ils seront toujours là, l'esprit va rester là, ça va venir d'autres réalisateurs que Takahata ou que Miyazaki. Voilà!
Très, très bien! Très intéressant. Et c'est vrai que je connais pas assez Ghibli.
Tout ressort en Blu-ray, c'est le moment. Faut y aller.
J'en ai vu que 3 au final. Hein.
Voilà.
Je sais, c'est honteux, mais. Enfin bref.
Non mais pareil. Moi j'ai pas beaucoup intervenu dans ton dossier parce que c'est vrai que j'en ai vu très peu et puis je pensais pas qu'il avait fait tout ça après la communauté de l'anneau.
Communauté de l'anneau.
Ghibli, non?
Oh mon dieu. Oh, j'ai oublié que c'était l'aile de Barberousse. On va le tuer. Ouais. Formidable.
Bon, c'est pour te dire que j'ai pas tout compris.
D'accord.
Mais puisque tu fais le malin, ça va être à ton tour hein, voilà. de parler. Hein. Et je vais lancer le jingle et tu m'expliques le jingle juste après.
Ça marche.
Alors attends, tu vas m'expliquer ça, parce que pourquoi j'ai mis ça?
Alors tu as mis ça puisque c'est extrait du film Anastasia, film sorti chez Fox en 1997. Et moi je vais vous parler en fait d'Anastasia en elle-même.
Et pas la chanteuse, rassure-moi.
Non, pas la chanteuse, voilà. Left Outside Alone, tout ça, non, non. Non, non, là je vais vous parler de la grande duchesse Anastasia, ou plutôt de la légende vraiment qui l'entoure en fait. C'est bon, vous êtes prêts?
On est prêts.
Ah, moi je suis plus que prêt. I was born ready.
Alors je vous plante le contexte, hein. Nous sommes en 1917 en Russie, la pourriture communiste n'en est qu'à ses balbutiements.
Les bolcheviks.
En tout cas, voilà. En tout cas, le régime tsariste, donc avec un tsar, hein, une sorte de monarque absolu, est en grande difficulté. Alors que ça se passait pas trop mal jusque-là avec le taux de croissance le plus élevé d'Europe, la guerre mondiale de 78, comme dirait Nabila, elle a complètement, elle a complètement donc coupé la Russie du marché européen et donc elle a vraiment morcelé le pays. L'activité elle a chuté terriblement. Déjà le coût humain de la guerre c'est à peu près 2 millions de morts et en plus le coût financier et l'enlisement de la guerre sur 4 années. Qui va se terminer en plus par une défaite russe, on fait monter donc petit à petit la colère du peuple. Grève par-ci, mutinerie par-là, le pouvoir est complètement dépassé. Nicolas II, donc le tsar, abdique le 2 mars 1917. Donc voilà, le ministre de la Justice va essayer d'organiser l'exil de la famille impériale. Il voulait clairement squatter chez le cousin british George V, mais bon, celui-ci a refusé parce qu'il pensait qu'il allait devenir impopulaire de ramener les Russes chez lui.
C'est le mec qu'on veut pas chez nous, c'est le qu'on veut pas chez soi.
C'est voilà, c'est ça.
La famille pénible, tu sais. Non.
Mais t'as bien un canapé, hein? Non. Voilà, donc la famille impériale, les Romanov, donc sont enfermés dans deux lieux avant d'être assignés au palais Alexandre. Donc seuls 5 domestiques ont pu les suivre, le médecin, la femme de chambre, le laquais et le cuisinier. Et bon, pas terrible l'ambiance, hein. Les fenêtres sont cadenassées, certaines sont même cachées par des volets extérieurs, et des palissades ont été construites tout autour de la demeure pour les dissimuler. Et sous la pression de l'arrivée des armées donc contre-révolutionnaires, le destin des Romanov est précipité. Probablement sur l'ordre de Lénine, le massacre de la famille impériale se déroule dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Les 11 personnes sont exécutées vers 2h du matin en moins de 3 minutes dans une pièce du rez-de-chaussée du palais.
Et là,
voilà.
C'est pas très cool.
C'est un peu l'ambiance direct.
C'est très joyeux. Hein, ton...
Donc les ordres sont clairs, visez le cœur, achevez les survivants d'une balle dans la tête et les agrémenter de petits coups de baïonnette. Donc voilà, les corps sont ensuite chargés dans un camion, puis transférés dans une forêt proche. On les déshabille, on les asperge d'essence et on les brûle. Voilà.
Ça me rappelle la mort de Rasputin.
Après, les communistes ont eu légèrement mauvaise presse. Hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc, j'oubliais un petit détail, ils sont également défigurés à l'acide sulfurique. Voilà. Donc voilà, les victimes sont jetées dans un puits de mine, d'où elles furent quelques jours plus tard retirées pour être ensevelies sous un chemin de forêt. Voilà, le massacre est aussi méthodique qu'il apparaît déterminé. Il ne doit y avoir aucun survivant de cette famille impériale. Pourtant, dans la soirée du 17 février 1920 à Berlin, un policier sauve in extremis une jeune femme de la noyade et de sa tentative de suicide. Elle murmure son prénom, Anna. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais faire un point sur Anastasia. Donc, c'est Anastasia...
Ils étaient à Berlin quand ils... Qu'est-ce qu'il faut à Berlin?
Ah oui, mais là... Ah bah justement, voilà. On va voir tout le cheminement, tout le mystère qui entoure cette histoire.
Dieu, que le mindfuck.
Teasing.
Alors voilà, donc Anastasia, elle est née donc le 18 juin 1901, donc elle avait 17 ans au moment du massacre. Elle est la quatrième fille de l'empereur Nicolas II, et c'est un véritable garçon manqué. C'est pas forcément l'image qu'on a d'elle, en fait c'est une enfant qui est une adolescente espiègle, taquine, qui est bruyante, fougueuse et souriante en fait. Elle se comporte vraiment pas comme une princesse en fait. Elle a même supplié sa mère de la scolariser dans un institut juste pour se faire des amis. Et par la suite, elle envisageait même une carrière d'actrice de théâtre. Alors pour vous dire à quel point ça a désespéré sa mère. Donc elle est très intelligente, mais elle est peu intéressée par l'école, donc sinon, à part pour s'y faire des potes quoi. Et c'est une enfant qui a beaucoup d'humour. Donc elle refusait de parler l'allemand, la langue de sa mère, mais elle s'amusait à converser en français avec son précepteur suisse.
So chic.
C'est une rebelle.
Voilà, c'est la classe que tu... Elle passe son temps libre à écrire, jouer avec ses frères et sœurs, et elle reste très proche de sa famille jusqu'à sa mort, donc à 17 ans. Mais, on retourne à l'histoire d'Anna, donc en 1920, qui est repêchée de sa tentative de suicide. Elle est conduite aux urgences, donc suite à sa tentative donc manquée de mettre fin à ses jours. Aucun papier sur elle. La jeune femme reste muette et ne dévoile rien de son identité. Les employés de l'hôpital l'interrogent sans cesse, cherchent à en savoir plus. Finalement, ils semblent comprendre à son accent russe avoir affaire à une réfugiée. Bon, après la guerre, pourquoi pas. Quelques jours plus tard, l'inconnue est transférée à l'asile de Dahldorf et les examens font état de cicatrices et de lacérations multiples sur le corps de l'inconnue. Elle porte une cicatrice en forme de triangle qui pourrait correspondre à un coup de baïonnette. Bon, le lien n'est pourtant pas encore établi. Deux années s'écoulent et à l'automne 1921, la route d'Anna croise celle de Marie Puttert. Je sais pas du tout comment ça se prononce en fait, mais c'est pas grave. Celle-ci, elle a donc travaillé en Russie avant la Révolution, et elle a un petit délire de persécution, donc bon, ils se croisent à l'asile. Et un soir d'octobre, elle lui montre une photo du Berliner illustré sur laquelle on voit trois des quatre filles du tsar. Et donc Marie dit à Anna, « Je sais qui tu es ». Et Anna lui répond, « Tais-toi ».
Oh,
elle s'est digne d'une bonne série ou d'un bon film.
T'as vu ça? Donc la rumeur se répand alors petit à petit. En mars 1922, il y a le capitaine Nicolas von Schrabe qui est surpris de voir qu'Anna ne comprend pas le russe. Alors que pourtant, justement, c'est sa langue censée être natale, a priori. Et pire, lui, il ne reconnaît pas du tout la tsarine.
Mince.
Donc intrigué, il invite la baronne Sophie Buxhoveden, qui ne la reconnaît pas, mais elle en même temps était complètement à la ramasse, elle pensait que c'était Tatiana. Enfin, elle pensait que c'était censé être Tatiana, alors que là c'est censé être Anastasia quand même. Donc voilà.
Les barons, c'est plus que c'était.
Complètement à la ramasse. Voilà, c'est. Donc ils ont fait venir également la nourrice d'Anastasia et une de ses camarades qui, eux, la reconnaissent. Ils disent cette personne est Anastasia.
Ouais, mais il n'y a plus d'équivoque là.
Ouais, on se dit, mais le doute n'est plus permis. Les enfants même du docteur Botkin ainsi qu'un blessé français reconnaissent l'impératrice. D'ailleurs, elle a un détail troublant. Quand elle voit le blessé français, elle l'appelle l'homme aux poches. Il faut savoir que elle avait en fait visité avec son père des blessés, des prisonniers en fait, des prisonniers faits par les Russes, et elle avait vu ce soldat français qui avait tout le temps les mains dans ses poches, et elle l'avait appelé l'homme aux poches. Alors, voilà, c'est une anecdote qu'elle ne peut pas inventer, quoi, clairement.
On dirait des légendes urbaines de péremptoire, c'est trop...
Il n'y a pas assez de chats, par contre. Mais bon, cependant, beaucoup aussi ne la reconnaissent pas, et le fait qu'elle ne parle ni le français, ni l'anglais, et ne reconnaisse pas du tout le russe, donc elle parlait qu'allemand, ça intrigue beaucoup. Donc bon... commence à y avoir une sorte de buzz médiatique autour d'elle. Donc le baron Arthur von Kleist l'a fait sortir de l'asile.
Parce que pendant ce temps-là, il était toujours dans l'asile.
Voilà, c'est ça. Cool. Elle se faisait visiter, en fait, tout simplement. Et donc là, le baron va la sortir de l'asile et la prendre sous son aile. Et donc elle va commencer à prendre confiance et elle va donner des détails sur son parcours. Alors elle a expliqué, par exemple, qu'un garde bolchevique nommé Alexander Tchaïkovski,
donc, comme le compositeur.
Aucun lien fils unique. Donc il était, lui, donc chargé d'enlever les cadavres après la tuerie. Alors lui aurait constaté qu'elle respirait encore et il avait décidé de la sauver. Oh. Il l'a enveloppée dans une couverture afin de lui faire passer la frontière et de l'épouser en Roumanie. Quel beau
Je
projet.
Je pleure.
Elle eut donc un enfant de lui en décembre 1918.
Il a fait plus que l'épouser, hein.
Il a consommé, quoi, voilà. Et donc ils ont eu un enfant en décembre 1918, mais son mari a été tué quelques mois plus tard par des inconnus dans une rue de Bucarest. Il paraît que c'était mal fréquenté. Elle est donc tombée en dépression et son enfant, appelé Alexander, est envoyé dans un orphelinat. Son beau-frère l'a donc amené à Berlin, où, esselée et désespérée, elle a tenté de se jeter dans le canal. Donc voilà, le lien est fait entre la Russie et Berlin.
Ouais.
Il faut également dire qu'à ce moment... La précipitation ainsi que le transfert donc mené par les rouges des cadavres et les enquêtes menées par les contre-révolutionnaires ont amené un doute. Lors d'un interrogatoire, en fait, un soldat aurait certifié qu'il manquait un corps avant de les enterrer.
Tribaclé.
Et que ouais. Pendant le chemin, il aurait même entendu des gémissements humains. De plus, Anastasia aurait survécu au coup de feu et au coup des soldats dans la maison. Les soldats l'auraient alors frappée de nouveau, sans vérifier si celle-ci était véritablement morte.
C'est pas pro, ça.
Non, c'est pas non. Clairement...
Je cautionne pas, mais c'est pas pro, je suis désolé.
C'est bâclé, c'est bâclé. La rumeur en plus se répand que donc un corps manque à l'appel, et la grande duchesse a pu être protégée par des balles par ses bijoux et les joyaux cousus sur ses habits, sur lesquels les balles auraient pu ricocher.
Ah, c'est comme dans L'Arme Fatale ou un truc comme ça.
Oui, ouais, ouais, oui, ou des... Il y a un truc...
Le briquet en or.
Oui, le briquet en or où il y a le... Non, c'est dans Révolution, je crois, où il prend une balle et il y a un... Il a une espèce de flasque qui prend la balle. Bon, ça... C'est un classique. Ah,
en tout cas, malheureusement, malgré plusieurs soutiens, après octobre 1928, la famille impériale explique qu'elle ne reconnaît définitivement pas Anna Anderson. Pourtant, elle a cité pour se justifier l'oncle Ernie, qui était Ernst de Hesse, un frère de l'ex-tsarine, qui a révélé l'avoir vu la dernière fois en décembre 1916 en Russie. Cette allégation sous-entend un grave secret politique. En fait, ce prince allemand, s'il avait vraiment été en Russie à ce moment-là, ça voulait dire qu'il était en train d'envisager de trahir les alliés en faisant une paix séparée avec la Russie. Donc, okay. Clairement, Ernst de Hesse, il a dit « Non, non, j'y étais pas.
Non, non, j'étais pas, non, j'ai rien vu. Oubliez-moi.
Voilà, » c'est ça. Donc, c'était l'anecdote qui tombait mal, quoi. Alors, justement, donc lui, ce personnage a engagé un détective privé qui a assuré que la jeune fille se nommait en fait Franziska Szwandowska, une ouvrière polonaise. Donc en fait, pour faire tomber définitivement les rumeurs sur le fait qu'elle était bien Anastasia. Malgré tout, en mai 1965, un témoin assermenté, donc obligé de dire la vérité forcément, le prince Dimitri Galitine confirmera devant le tribunal de Hambourg que Ernst de Hesse était bien en décembre 1916 en Russie.
Que de mensonges dans cette histoire.
Eh oui. Pardon, en 1927...
C'est le complot Kennedy, quoi. C'est...
En 1927, sceptique relativement à sa possible survie, il tenta plusieurs fois de la piéger en lui communiquant de fausses informations. Et elle a corrigé tout aussitôt. Donc en 1958, peu avant sa mort, il témoigna de nouveau sous serment l'avoir vraiment reconnu en tant qu'Anastasia. En France, ça a fait un peu écho. À partir de 1907, la journaliste du Figaro, Dominique Auclair, après confrontation de tous les points de vue et la découverte qu'elle parlait le français et servait le thé au lait à l'anglaise, lait d'abord, thé ensuite, prit fait et cause pour elle et lui consacra un livre. Sa tante, donc la sœur de Nicolas II, lui accorda également son plein soutien en 1967. Pourtant, un an plus tard, on a cessé officiellement de voir en elle l'héritière de toutes les Russies. Anna a décidé alors de se rendre aux États-Unis, où elle s'est mariée avec un certain Jack Manahan, de 21 ans son cadet, et elle est morte en 1984, et enterrée avec l'inscription H.I.H., qui veut dire « Her Imperial Highness », son Altesse Impériale.
Oh, on dirait la fin de Titanic avec le côté avec Rose, la vieille dame qui dit pas vraiment ce qu'elle est.
Je pensais pas qu'on allait citer Titanic.
Ah, mais c'est voilà cette idée. Enfin, surtout c'est le fait qu'elle finisse aux États-Unis. Voilà, c'est étonnant quoi. C'est.
Mais malgré tout, est-ce la fin? Non. Puisqu'en 1990, les corps de la famille impériale ont été retrouvés et exhumés, puis identifiés par une analyse ADN.
Ah, c'est la grande mode de l'époque, on déterrait tout le monde pour faire des analyses ADN.
Voilà, c'est ça. On avait une justification pour faire du...
C'est ça.
Pour déterrer tout le monde, c'est cool. Alors, deux corps manquaient effectivement, celui du tsarevitch Alexis et celui de l'une de ses sœurs, Maria ou Anastasia. Il y a un doute encore. Mais d'après le rapport de Yurovsky qui dirigea l'exécution, ces deux corps furent brûlés dans les bois voisins. Lors de fouilles, qu'on a réalisées donc en juillet 2007, sur le lieu probable où les corps du tsarevitch et de l'une de ses sœurs auraient été enterrés, on a effectivement retrouvé des ossements de deux corps. D'après les premières conclusions, il s'agirait donc effectivement d'un jeune garçon âgé de 13-14 ans et d'une jeune femme âgée de 19-20 ans. Donc ça pourrait coller avec Anastasia. Donc voilà. Le suspense a même donc trouvé totalement sa fin quelques années plus tôt. En 1994, on a pu comparer l'ADN mitochondrial d'Anna Anderson avec l'ADN du prince Philippe, duc d'Édimbourg, dont la grand-mère est la sœur de la tsarine. Je pense que vous avez tous suivi. Là. Si je fais une interro, vous êtes à fond. Et malheureusement, le test se révèle négatif. Anna Anderson n'est pas une Romanov.
Oh non.
Voilà.
Alors là, on peut commencer à débattre de est-ce que c'est bien finalement les tests ADN, est-ce que ça enlève pas toute la magie, mais.
Il y aura trop de trucs. Il y aura toujours un doute. Sans rentrer, je suis pas du tout amateur de complot ou quoi que ce soit, mais tester des ADN sur des choses très anciennes, après, il y a quand même des pourcentages d'erreurs qui existent. Bon, voilà quoi. Donc bon.
Oui, effectivement. Il vaut mieux garder le doute du beau, l'espèce de mythe qui a duré plus de 50 ans,
j'ai l'impression.
Oui, absolument, c'est ça. Après, effectivement, on a comparé ce même ADN mitochondrial avec celui d'une sœur de la fameuse Franciszka Szczęskowska, donc l'ouvrière polonaise qu'elle était censée être finalement, et le test s'est révélé positif. Donc c'était vraiment Franciszka Szczęskowska.
Bon.
Donc voilà, le 30 avril 2008, les analyses génétiques effectuées par un laboratoire américain ont confirmé que les restes provenaient bien du tsarevitch Alexis et de la grande duchesse, donc Anastasia.
Je suis sûr que c'est un coup de Rasputin, moi. Qui a truqué les trucs.
Malgré ce, donc, une question reste toujours. Comment se fait-il qu'Anna Anderson connaissait tant de détails sur la vie des Romanov?
C'est vrai, ça.
Jean Descartes, qui est auteur de l'ouvrage La saga des Romanov, a répondu à cette question en disant que Anna Anderson était une pauvre femme traumatisée physiquement et moralement par la guerre, à qui des escrocs avaient fait croire à son identité prestigieuse, totalement inventée, dans le but d'émouvoir, de convaincre et surtout de capter le magot impérial. À partir de sa ressemblance, ils lui ont fabriqué une mémoire avec assez d'habileté pour que certaines personnes succombent et valident l'invraisemblable. La malheureuse, en partie amnésique, avait sans doute fini par y croire elle-même. Victime d'une monstrueuse manipulation, la pire puisqu'elle, à elle aussi, ont répété une supercherie. Donc voilà, clairement, les personnes qui ont vu Anna ont très bien pu lui dire voilà, je te donne un souvenir et tu dis que c'était toi qui avais le souvenir et que c'est toi qui me l'as raconté. Clairement, le trésor impérial qui était toujours là malgré donc la disparition du tsar a pu attirer des convoitises et le fait de trouver un héritier, bah ça pouvait être le bon plan pour s'accorder le magot quoi.
Bah oui.
Encore que le magot impérial après, à mon avis, il a dû être remis au peuple, normalement.
Ouais, non, peut-être pas.
Sur le principe, normalement, il aurait dû être redistribué égalitairement.
Normalement, ouais.
Alors concrètement, c'était quand même plus de 250 millions d'euros hein, sur des comptes en Angleterre.
Ah.
Pour chacun des enfants en cas d'exil forcé.
Ah oui, d'accord.
En cas d'exil forcé.
Moi aussi, je suis un fils Romanov. Non, ça marche plus.
Tu vois, ça peut attirer des convoitises quand même concrètement.
D'accord,
ça.
Je comprends mieux maintenant.
Je ne relèverai pas Barberousse qui nous dit qu'un autre laboratoire a confirmé qu'elle était bien la fille d'Yves Montand.
Par contre, la pure loose, c'est que la banque a dévoilé que le tsar avait vidé les coffres en 1916.
Dommage.
Pour soutenir en fait l'effort de guerre.
Ah, excellent.
Donc ils se sont vraiment fait chier pour rien quoi.
C'est que 50 ans de supercherie, ça y est, on va toucher le chèque. Ah non vieux, il n'y a plus rien. Oh.
Donc ça veut dire que même encore maintenant, il y a encore des recherches sur cette histoire.
Bah oui, parce que 2008, c'est...
Il y avait même l'histoire complètement folle de Eugenia Smith, également connue sous le nom d'Eugenia Drabek Smetsiko. Elle était née en décembre 1899, elle vivait à Chicago, et elle était l'auteur d'une biographie de la grande duchesse Anastasia Nikolaïevna Romanov, dans laquelle elle clame être Anastasia.
Encore une autre.
Sauf qu'elle vivait à Chicago. Et bien que beaucoup de femmes se soient fait passer pour la grande duchesse Anastasia depuis le début, seules elle et Anna Anderson ont réussi à répandre leur histoire. Alors, selon les papiers de naturalisation qu'elle avait remplis en 1929, donc lors de son émigration aux États-Unis, elle était née en 1899 en Bukovine, c'est une région entre la Roumanie et l'Ukraine maintenant. Et elle a présenté un peu plus tard donc une biographie sur Anastasia à un éditeur. comme ayant été écrite par la grande duchesse elle-même. Et l'éditeur a exigé qu'elle passe au détecteur de mensonges, et elle a échoué.
Ah, d'accord.
Oh, enfin, détecteur de mensonges, bon.
Et donc, elle s'est pas laissée démonter, elle a dit « Non, mais c'est pas une biographie de Anastasia. » Après, elle a commencé à dire « Je suis Anastasia !» Donc,
okay. Okay.
Elle a changé donc par la suite sur sa déclaration, donc sa date et son lieu de naissance. Maintenant, donc, elle était née le 18 juin 1901 à Saint-Pétersbourg, tout comme la Grande Duchesse. Elle est devenue très célèbre aux États-Unis lorsque le magazine américain Life publia un article en octobre 1963 en affirmant qu'elle semblait bien être la véritable Anastasia.
Si c'est voilà, les journalistes qui le disent, c'est vrai, hein, c'est bien connu.
Cependant, le magazine a fait observer qu'elle n'a pas réussi à convaincre deux anthropologues qui ont comparé son visage avec celui d'Anastasia et une graphologue qui n'a trouvé aucune ressemblance entre son écriture et celle de la Grande Duchesse. Donc la prétendante a d'ailleurs refusé de passer des tests ADN pour confirmer les doutes des scientifiques.
Ouais, mais voilà. arrivé là, je
celle-là
pense
m'a l'air un peu plus moisie que l'autre hein, quand même.
Ça c'est quand même la plus grosse loseuse. Hein. Ça, c'est, voilà. Elle était passionnée de peinture, elle faisait d'ailleurs ses propres tableaux et elle représentait des scènes de sa prétendue enfance avec la famille impériale. Bon, c'est là que tu commences à te dire c'est grave.
gros pipo hein.
Donc ses tableaux font à présent partie d'une collection privée. Elle avait même créé la fondation Saint-Nicolas. Et lors de sa mort, beaucoup de journaux ont annoncé son décès avec la date de naissance d'Anastasia. Mais contrairement à Anna Anderson qui fut incinérée après sa mort, elle a été enterrée selon les procédés orthodoxes dans le cimetière Sainte-Trinité du monastère orthodoxe de Jordanville à New York, la crémation étant interdite dans l'orthodoxie. Tu vois, même elle te laisse un petit doute sur la fin, tu vois.
Oui, quand même.
Voilà, bah c'est fini
et,
malheureusement.
Et donc ça, c'est bien ce qui a inspiré le film. C'était la Fox, je crois, le dessin animé de la Fox ou la belle Anastasia. Mais
je pense pas que ce soit. Oui,
non, mais oui, effectivement, il y a toute la fuite. Je sais même plus comment ça finit d'ailleurs, mais il y a toute une fuite où elle s'échappe de Rasputin, le très très méchant Rasputin, voilà, qui arrive à mettre, pour se venger des Romanov, je sais plus pourquoi, mais arrive à mettre en place la révolution bolchevique. Hein. Enfin, c'est ça. Bon.
Bah, c'est plus ou moins les Romanov qui ont une partie du moins du clan Romanov qui a fait assassiner Rasputin. Donc voilà. Effectivement, il avait de quoi se venger.
Oui, puisque ça dans le dessin animé, il est mort vu qu'il est à moitié vert ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est.
Oui, mais pareil sur Rasputin, il y a une légende qui dit que il était pas mort au final. Ah oui. Hein,
absolument.
Il s'en est sorti.
C'est dingue. Ça pourrait faire l'objet d'une série télé, tu vois.
Bah c'est clair. Non, on ne chantera pas Rasputin, non, c'est juste
non,
pas possible.
Rasputin.
Ferme-toi,
enfin,
s'il te plaît.
Bref.
Oh, mais c'est rigolo prêt, de voir les secrets d'histoire, un peu comme dirait l'autre.
Oui, il y en a plein. Je suis sûr qu'il y en a encore d'innombrables secrets.
Bah, nous, c'est dans le même goût que nous, on a le masque de fer, voilà, qui est un truc célèbre où on sait toujours pas ce que c'est, où il y a plein de. Il y a tout et son contraire qui est dit, quoi.
Tout à fait, oui. Ce sera tout, c'est bon?
Bah, je pense, j'ai passé des maths.
Oui, ce sera tout. Bah, là, le malheur, c'est qu'on sait comment ça finit.
Bah, oui.
Ouais, c'est dommage. Ça gâche une belle histoire au final. Enfin, une belle histoire.
Oui, c'est clair.
Relative belle histoire. Très bien. Bah, je pense qu'on arrive au bout.
Ouais,
on va passer.
Attends, juste avant, j'ai oublié. Ça se fait pas du tout. J'ai oublié de remercier de citer mes sources. Et ça se fait pas. Je me suis largement inspiré. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur un site qui s'appelle Buta Connection. BUTA connexion voilà, c'est www.buta-connexion.net qui est une bible que je vous recommande sur lequel le foncer sur Ghibli où il y a vraiment tout c'est vraiment vraiment un super super site. Donc je vous recommande ça et j'y ai trouvé moi la plupart de ce que je vous ai raconté. Donc voilà, donc je vous le recommande. J'aime bien citer mes sources, je trouve que ça fait plus sérieux.
Ah mais t'as raison.
Moi, Wikipédia, oui. Et je vous conseille d'aller voir les photos. Je vous conseille d'aller voir les photos d'Anastasia, donc et des prétendantes.
Google,
il y en a qui ressemblent absolument pas, et il y en a pour lesquelles c'est un peu plus troublant. Quoi.
Ouais.
Et nous, on a Anastasia dans la chatroom hein, quand même. Hein.
Oui.
C'est la classe.
Elle est là, on l'a retrouvée. Alors bon, bah, je pense qu'on va passer à la conclusion, et je sais pas que mettre, mais je vais mettre ça comme jingle.
Oh.
Bon, on arrive à la fin de l'émission. Au final, on a fait presque une heure et demie, donc on est dans les temps. Chers invités, où est-ce qu'on vous retrouve, Laurent? Je sais que t'as toujours une un agenda de ministre en ce qui concerne les podcasts.
Bon, pour faire simple, le broclash avec mon frère dont on a parlé tout à l'heure, où on se dispute sur un objet culturel, l'épisode tout frais est fini de monter, il va être publié dans quelques jours, alors je dois chaque péremptoire, tu publies très très vite, donc je pense qu'au moment où sortira les éclaireurs, le broclash sera certainement sorti, c'est l'épisode 11, et du coup je peux vous le... spoiler, parce que j'ai déjà fait, il va parler de Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Donc voilà. Donc le broclash, www.thebroclash.fr. Puis moi, le Twitter, @LaurentDoucet, LaurentDoucet.
Donc, sur voilà. Facebook aussi, hein.
Non, pas de Facebook.
Ouais, et sur ton compte YouTube où t'as des vidéos de chat aussi?
Non, j'ai un compte YouTube, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais non, j'aime pas trop, j'aime pas beaucoup YouTube. Ah, c'est pas joli de se moquer.
C'est pas pour me moquer. Matt.
Bah écoute, on peut retrouver des critiques sur le site À vos écrans, donc avec l'ami Selim, que vous retrouvez également dans Baraka Geek maintenant. Ils ont une page Facebook et deux épisodes déjà donc de podcast sur la page Facebook. Je participe également à Quid Novi dans le module tout aussi décérébré que ludique Panem.
On attend le prochain.
Voilà. Donc on attend le prochain, les questions sont prêtes, les réponses aussi. Et
dis que c'est la faute de Barberousse, non ? C'est pas ça ?
Non, ça va, non, il fait son boulot, le PPR.
Il faut trouver juste des concurrents.
Il va kiffer.
Le problème, c'est plus de trouver les invités, tu vois, mais on fera appel à toi s'il y a un souci, Laurent Doucet.
Non, j'ai déjà fait, moi. À Panem, j'ai déjà fait Panem, j'ai fait le...
Voilà. Ah, tu repasses jamais deux fois où tu as...
Non, pas dans un jeu, non, je pense qu'il y a plein, vous avez plein d'autres gens qui veulent participer, parce que c'est vraiment fun, nous, on s'était vraiment bien marré, hein.
Bah écoutez, si vous souhaitez participer, vous pouvez nous écrire.
Moi, je peux pas participer, malheureusement. Mais de toute façon, comme dit Randall Flagg, Panem, c'est tout pourri.
Oui.
Voilà. Voilà, grosso modo. Et sinon, si vous voulez me suivre, c'est Matt Loves sur Twitter. Et également matt.blogspot.fr. Voilà.
Bon.
Très bien. Pour ce qui est du podcast, vous pouvez aller sur www.leséclaireurspodcast.com. Vous avez le compte Twitter @les_éclaireurs. Je veux aussi remercier Randall Fly qui nous a fait un magnifique gribouillon en live.
Il a fait
sur
un très beau Totoro.
Un joli Totoro. Et oui. Que je mettrai le lien de toute façon pour aller voir ça. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour cette fois-ci un éclairage avec des nouveaux invités. Je ne sais pas qui encore, je trouverai bien du monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on se quitte avec comme musique de fin La Marche des Jouets de Victor Herbette. Donc on se voit la semaine prochaine.
À bientôt.
Merci à tous.